Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le journal en langue française. Et voici les titres. Dans tout le pays s'est déroulé ce lundi 25 août 2025 les élections de chefs des conseils des collines ou de quartiers, un scrutin qui boucle le processus électoral de 2025. Aucun détenu ne devrait torturer l'autre par demander des frais de bougie, rappelle le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Et le prix des tickets de transport ne sont toujours pas respectés à Bururi, où les conducteurs des véhicules continuent d'exiger 15 000 francs bondés, alors que le tarif officiel est fixé par l'État pour le déplacement et de 6 000 francs burundais. Voilà pour les titres. Jean-Marie Mayonga à la présentation, Eric Wiman assure la mise en onde. Bienvenue.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Ouvrons cette édition par la page politique. Les élections des conseillers collinaires aux deux quartiers dans tout le pays ce lundi 25 août 2025 ont été bien passées selon les journalistes sur terrain qui ont suivi ces élections dans différentes communes du pays. Les électeurs ont répondu à l'appel depuis 6 heures du matin. En général, tout a été bien passé et dans la province de Bujumbura seulement, la population ne s'est pas présentée comme dans les législatives communales précédentes. 15 220 élus collinaires seront connus à travers 3044 collines qui composent le pays et se retrouvent dans 42 communes et 5 provinces selon le nouveau découpage territorial du Burundi. Toujours en rapport avec les élections, 7 personnes dont 3 présidents de bureaux de vote et 2 membres d'un bureau de vote, un électeur et un mandataire sont détenus au cachot de la police de Rumonge depuis la soirée de ce 25 août 2025. Ils sont accusés de fraude électorale dans différents centres de vote. Le commissariat provincial de la police de Rumonge confirme leur rétention en précisant qu'elle vise à les traduire en justice. Jean-Pierre Misago.
À Gitaza, en commune Mouta, toujours sous la dépendance du commissariat provincial de Rumonge, c'est le président du bureau de vote numéro 4 arrêté avec 6 carnets de bulletins de vote complétés en faveur d'un candidat conseiller collinaire. À Bugarama, c'est le président du bureau de vote numéro 1 du centre de vote de Burangwa arrêté, accusé de bourrage des urnes après avoir découvert dans l'urne 35 bulletins de vote alors que le pointage montrait seulement 12 votants. À Minago, c'est un électeur attrapé en possession de 10 bulletins de vote qu'il allait introduire dans l'urne. Dans la ville de Rumonge, c'est le président du bureau de vote numéro 5 au centre de vote Ecofo Rumonge 4 arrêté avec 2 des membres de ce bureau et un mandataire. Selon la police de Rumonge, ce dernier venait de donner 100 000 francs burundais à ses responsables de ce bureau de vote afin qu'il vote en faveur de son candidat. Les dossiers judiciaires de toutes ces personnes sont en train d'être confectionnés pour leur transfert au parquet de Rumonge dans l'optique de les traduire en justice dans des procès de flagrance selon le commissariat provincial de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Le parti CNDD-FDD estime que les Burundais doivent travailler afin de produire des biens à exporter sur le marché international, ce qui permettrait de faire face à la pénurie persistante de carburant. Cette déclaration a été faite ce samedi par le secrétaire général de ce parti lors d'une conférence de presse en Ngozi. Le venu du Kurio a indiqué que, selon lui, s'il y avait suffisamment de devises étrangères, il n'y aurait plus de pénurie de carburant. Il a ajouté que cette crise ne c'est pas seulement l'affaire du parti, mais concerne tout Burundi. Suivez-le traduit en français par Alexis Daisenga.
Imbere y'amatora hariho umugwiza tunga cyangwa umudandaza yavuze ngo amadorara arakenye je namutumye ko turaganira.
Avant les élections, un homme d'affaires ou un commerçant a déclaré que le dollar se faisait rare. Je l'ai invité pour en discuter et je lui ai dit: toi qui affirmes que ce gouvernement est responsable de la rareté du dollar, dis-moi, depuis combien d'années fait-il le commerce? Il m'a répondu: depuis 30 ans. Je lui ai alors posé la question. Et pendant ces 30 ans, combien de dollars as-tu fait entrer dans le pays grâce à ton commerce? Il m'a répondu aucun. Je lui ai donc fait remarquer qu'un tel commerçant est en réalité moins utile qu'un simple citoyen qui possède 3 avocatiers. Ce dernier, s'il récolte une tonne d'avocats, on peut s'attendre à ce qu'il ramène environ 750 dollars en tenant compte du prix d'achat du marché. Tout est une question de chiffres. On se rend compte que le citoyen qui cultive et exporte peut rapporter davantage de devises au pays que certains commerçants installés depuis longtemps. Concernant la libéralisation du secteur du carburant, cela implique également que chacun devrait être capable de trouver lui-même les devises nécessaires. Car lorsque les devises sont disponibles, le carburant l'est aussi. Mais si elles ne le sont pas, celui qui choisira d'importer à tout prix risque de nuire gravement au pays en vendant le litre du carburant à 20 000 voire 30 000 francs burundais par litre. C'est un combat que nous devons tous comprendre. Il ne s'agit pas d'une affaire du parti politique, mais d'une cause nationale qui concerne chaque Burundais. Si nous relançons l'exportation des avocats, si nous redonnons la valeur à notre café, les devises reviendront naturellement. Mais si nous nous contentons de discours créés sans agir, la pénurie persistera. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les citoyens. Retournons aux champs, produisons davantage et exportons vers les marchés internationaux. Donc, nous demandons à chaque ouvrier son cœur de se mobiliser pour le développement du Burundi.
Page droit de l'homme. Aucun détenu ne devrait torturer l'autre par demande des frais de bougie, rappelle le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, lors d'une conférence de presse vendredi au terme d'une réunion avec les acteurs de la chaîne pénale de la province de Burunga. Monseigneur Martin Blaise Nyaboho a en outre déploré la surpopulation carcérale persistante tant dans les prisons que dans les cachots. Suivez-le dans cette traduction française de Jérôme Hakizimana.
Certains disent que la bougie serait un instrument de rappel à l'ordre, mais c'est plutôt un instrument de torture. C'est vrai, il y en a qui sont torturés. Les détenus menacent les nouveaux en leur disant qu'aucun parquet ne le poursuivra étant déjà détenu, que les arrivants doivent obéir à leurs ordres. Nous, défenseurs des droits de l'homme, allons sensibiliser même aux prisonniers, leur dire que c'est une immense de torturer son semblable. Demain, vous serez relâchés et vous vous retrouverez dans vos communautés. Quelle sera la suite? Nous continuons à sensibiliser. C'est vrai, dans ces maisons de détention, il y a un surnombre. À titre d'exemple, à la prison de Bururi, sa capacité d'accueil est de 250 personnes, mais quand on y a effectué une visite, il y avait 324. Cela veut dire qu'il y avait 74 de plus. Même ailleurs, il y a surpopulation carcérale. Suite à cela, ils vivent dans de mauvaises conditions. Même si l'État a prévu de nourrir, par exemple, les 250 et qu'ils sont à 324, ça ne va pas suffire. Les médecins sont appelés à les consulter suite à ces mauvaises conditions de vie. Qu'allons-nous faire à la CNDH? Nous avons déjà commencé. C'est d'aller voir qui sont incarcérés en surnombre. Nous nous approcherons des responsables de la chaîne pénale pour leur demander d'accélérer les dossiers d'infraction mineure. Notre souhait est que les prisonniers soient moins nombreux et qu'il y ait un grand nombre qui s'attellent aux travaux de développement.
Dans le domaine du transport, les prix des tickets de transport ne sont toujours pas respectés à Bururi, alors que le carburant est de nouveau disponible depuis la fin de la semaine dernière jusqu'à ce lundi dans 3 stations de cette commune. De Bururi à Rumonge, les conducteurs des véhicules et assurant le transport en commun continuent d'exiger 15 000 francs burundais et de Bururi à Matana, ils réclament 10 000 francs burundais alors que le tarif officiel fixé par l'État pour ces des trajets et de 6 000 francs bondés. Les usagers de ces routes demandent avec insistance l'intervention de l'administration et de la police pour faire respecter les prix réglementaires. Zeno Nzambimana.
Du parking de Bururi au parking de Rumonge, une somme de 15 000 francs bondés par personne est exigée aux passagers par les conducteurs des véhicules de type Probox assurant le transport en commun. De ce parking à celui de Matana, ils sont obligés de payer une somme de 10 000 francs bourrondais de tickets de transport, alors qu'ils ne devraient pas dépasser une somme de 6 000 francs bourrondais fixée par l'État pour ces tronçons de la route nationale numéro 16. Ces passagers grognent que ces prix exorbitants qu'ils payaient depuis plus de 5 mois suite à la pénurie du carburant ne sont pas encore diminués, alors qu'ils ont vu eux-mêmes ces véhicules en train d'être servis en carburant qui était disponible à 3 stations de la commune de Bururi, à savoir la station Kaze, la station service qui ont servi le mazout et l'essence depuis jeudi jusqu'à samedi de la semaine écoulée, sans oublier la station Taba Oil qui est en train de servir les mêmes produits depuis ce dimanche. Les conducteurs de ces véhicules assurant le transport en commun devraient revoir à la baisse les prix des tickets de transport en cas de disponibilité du carburant, selon leurs clients qui demandent avec insistance à l'administration et à la police de travailler convenablement pour faire respecter ces prix. Les autorités administratives dans les communes Rumonge, Bururi et Matana appellent la population et surtout les passagers à dénoncer chaque fois les chauffeurs qui se sont arrogés le droit de se fixer les prix de tickets de transport pour qu'ils soient punis conformément à la loi. Depuis Bururi, dans la province de Burunga, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro.
Isanganiro. Radio Isanganiro, le journal continue, page commerce et des femmes exerçant le commerce de vaches au marché du bétail de Kayanza affirment que cette activité leur permet de soutenir leur mari dans la prise en charge de la famille et de réaliser de petits projets contribuant au développement de leur foyer. Elles témoignent qu'au début de leur activité, elles étaient mal perçues par la société car ce métier est traditionnellement dominé par les hommes. Ces commerçantes appellent d'autres femmes à retrousser leurs manches et à s'engager activement dans les activités de développement longtemps considérées comme réservées aux hommes. Patrick Saint-Guillaume.
Des femmes commerçantes de vaches au marché du bétail de Kayanza avec lesquelles nous sommes entretenus sont surtout Nionise Gorette et Naïmara Godans. Nionise Gorette nous a fait savoir qu'elle a commencé à vendre des vaches après avoir remarqué qu'aujourd'hui, avec la chèreté de la vie, la femme doit nécessairement prendre une part active dans la survie de la famille. Toutefois, cette femme vendait des vaches au marché du bétail de Kayanza précise que les débuts de cette activité commerciale n'ont pas été faciles pour elle. Là, elle donne l'exemple que les premiers jours de son activité commerciale, elle a enregistré des pertes à cause du manque d'expérience dans l'achat et la revente des vaches, mais qu'aujourd'hui, avec l'expérience, elle appuie son mari dans les charges quotidiennes à la maison pour subvenir aux besoins fondamentaux de la famille et réaliser de mini-projets de développement pour cette même famille. Même propos avec Naïmana Godin, une autre vendeuse des vaches au marché du bétail de Kayanza. Celle-ci précisait d'ailleurs qu'elle s'est lancée dans cette activité commerciale après avoir compris qu'aujourd'hui, une femme d'aujourd'hui est capable d'exercer n'importe quelle profession, même celle qui était les dernières années réservée seule aux hommes. Ces femmes vendeuses des vaches au marché du bétail de Kayanza appellent les hommes à soutenir davantage les initiatives économiques de leurs épouses au lieu de freiner leur autonomisation économique. Même sans de cloche avec les hommes vendeurs des vaches au marché du bétail de Kayanza qui apprécient positivement le courage et le dynamisme avec lesquels ces femmes exercent leurs activités. Signalons que les femmes à Kayanza se sont aujourd'hui lancées dans des métiers autrefois perçus comme exclusivement réservés aux hommes, dont la maçonnerie, la menuiserie et la boucherie. Depuis la commune Kayanza de la province Butanyerera, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro.
Page santé, les jeunes filles qui tombent enceintes de manière non planifiée voient leur vie bouleversée car beaucoup abandonnent des études tandis que d'autres sont rejetés par la société. C'est ce qu'a déclaré ce samedi la responsable de l'éducation et de la sensibilisation à la planification familiale dans le programme national de santé nationale. Ces propos ont été tenus lors d'une séance de sensibilisation organisée dans la zone Eruzina, commune Mugere, par une association nationale des sages-femmes. Pour prévenir cette situation, Jacqueline Ndabagirire a exhorté les jeunes à s'abstenir de toute activité sexuelle prématurée afin de préserver leur avenir.
Les jeunes dont nous parlons, ce sont des enfants qui se trouvent entre 10 et 24 ans. Pendant les vacances, comme ils n'ont pas d'activité, Des fois, ils se lancent dans le débauche. Et d'autres comportements à risque, comme la consommation de l'alcool, la consommation des substances psychoactives et d'autres comportements qui aboutissent des fois au rapport sexuel et qui entraînent des grossesses non désirées. Et ces grossesses non désirées ont beaucoup de conséquences sur la santé des adolescents et des jeunes. Comme conséquence, vous voyez, une fille, quand elle tombe enceinte et ne continue pas les études, elle est stigmatisée, des fois elle est expulsée de sa famille. C'est-à-dire que leur vision en tant qu'élève s'arrête et ne va pas continuer les études parce que d'abord à elle seule, elle ne pouvait pas se prendre en charge. Elle ajoute à nouveau-né sa vie qui est un peu paralysée. Ce n'est pas les grossesses seulement, il y a aussi des maladies qui sont transmises sexuellement. C'est-à-dire que leur santé en général peut être paralysée. C'est pourquoi nous nous occupons des jeunes pour qu'à l'âge adulte, les garçons et les filles, ils puissent être fertiles avec une bonne santé. Vous pouvez dire que même quelqu'un qui a actuellement le VIH peut avoir des enfants, mais ce sont des enfants, mais leurs parents, leur maman n'est plus en bonne santé parce que pour survivre, elle doit prendre des médicaments.
Dans le domaine de l'élevage, les pesticides utilisés pour tuer les insectes nuisibles aux cultures ainsi que le changement climatique qui entraîne la dégradation du sol font partie des causes qui empêchent les abeilles de produire un miel de bonne qualité. Cela est dû notamment à la disparition progressive des espèces végétales mellifères. Melchior Nguare, chercheur à l'ISABU dans le domaine écologique, précise que pour obtenir un miel de qualité et en quantité suffisante, les abeilles doivent évoluer dans des milieux bien protégés et exempts de produits chimiques. Il a tenu ce propos mercredi dernier lors de la présentation d'une étude ethnobotanique sur les espèces végétales mellifères.
Les miels que nous consommons sont de deux types. Il y a des miels qui sont naturels, qui sont directement produits par les abeilles après butinage de fleurs des différentes plantes mellifères. On récolte son miel, on le met sur le marché sans rien ajouter. Il y a d'autres miels où, pour avoir beaucoup, certains ajoutent les cycles industriels, bien les cirés de cycle, que ce soit de différentes cultures. Sinon, le miel de qualité, c'est le miel qui est 100% produit par les abeilles, aucun ajout. Et pour aussi qu'il soit de qualité, il faut que les abeilles butinent sur des plantes mellifères propres qui ne sont pas contaminées par les différents produits chimiques. Là, je fais allusion notamment aux pesticides qui sont utilisés pour lutter contre certaines maladies des plantes, même les pesticides qui sont utilisés dans l'élevage. Ici, ils peuvent contaminer les plantes et les abeilles en butinant, ils récoltent les substances comme le nectar ou le pollen. Et si ces fleurs ont reçu des pesticides, les abeilles récoltent ces substances contaminé avec ces produits chimiques et ça va produire un miel de mauvaise qualité.
Page Sport, promouvoir le judo jusque dans les coins les plus reculés du pays, notamment sur les collines. Tel est le projet phare de Valérie Manirakiza, reconduit pour un mandat de 4 ans jusqu'en 2029 à la présidence de la Fédération Burundaise de Judo. Cette réélection a eu lieu vendredi passé lors d'une assemblée générale élective. Elle estime qu'en collaboration avec toutes les parties concernées, ce projet pourra être mené à bien sans difficulté. Suivez Valérie Manirakiza.
D'abord, le judo, c'est un sport de la jeunesse burundaise. Donc, nous sommes toujours animés des objectifs, de la vision du pays, de la vision 40-60 pour rester dans les objectifs du pays. Et dans ces objectifs, nous, comme judoka, on doit d'abord continuer à vulgariser le judo, mais aussi faire rayonner le judo au niveau national et à l'international. Je venais de vous dire tout à l'heure, on vient de rentrer d'une compétition de Open de Jordanie où les Burundais sont rentrés avec une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. C'est vraiment une première parce qu'on était habitué à avoir des médailles au niveau africain, sous-régional. Et maintenant, on commence à embrasser le monde où Jordanie, on commence à en demander, mais le Burundi, c'est où? Donc, c'est comme ça que nous, on participe à faire connaître notre pays. Notre objectif, c'est aussi faire rayonner le judo à travers le pays. Vous avez aujourd'hui, on a aujourd'hui une quarantaine de clubs. On veut que pendant cette Olympiade, les termes de sportifs sont marqués par des Olympiades. Cette Olympiade qu'on vient de commencer, de 4 ans, dans lesquels on va manager la fédération. On va essayer de multiplier par 2 les clubs. Si aujourd'hui, on est à 40, que d'ici 4 ans, les clubs en soient à 80. Ça veut dire que le judo soit sur, dans toutes les communes, pourquoi pas sur toutes les collines. Ça, c'est aussi un objectif.
Mesdames et messieurs, c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Et merci de l'avoir écouté. Au revoir.